I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, on triga. Me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love. Une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Elle est la maman de deux petits garçons et a connu deux grossesses complètement différentes, une grossesse surprise et une deuxième prévue. Dans cet épisode, Lola nous raconte l'histoire de sa maternité, elle nous explique aussi son métier d'assistante maternelle à domicile, et nous raconte ce que la maternité a changé dans sa vie. Bonne écoute.
Bonjour Lola, merci beaucoup d'avoir accepté de raconter ton histoire dans Le Tourbillon.
Merci à toi de m'accueillir.
Alors tu es la maman de deux petits garçons, Kezia et Soel. À quel âge tu as eu ton premier fils ?
Je suis tombée enceinte de Kezia, j'avais 22 ans et j'ai accouché à 23.
Et comment s'est passée ta première grossesse ?
C'était pas prévu, c'était une grossesse surprise. Ça faisait pas très longtemps que j'étais en couple avec Nicolas. Et moi, j'avais un réel désir d'avoir des enfants depuis très longtemps. Donc, je me suis tout de suite dit que je garderais cet enfant, que s'il était arrivé là, il y avait une raison et que voilà. Ça a été un peu compliqué avec Nicolas qui est plus jeune que moi, et du coup on était jeunes tous les deux et on n'était pas forcément du même avis, donc ça n'a pas été une période hyper facile. Et en plus de ça, même si j'avais un vrai désir d'être maman tôt, j'ai détesté être enceinte. Ouais. Du coup, c'était pas la meilleure période de ma vie, mais on va dire que vu ce que j'ai aujourd'hui, il fallait au moins ça pour mériter autant de bonheur aujourd'hui.
Qu'est-ce que t'aimais pas ?
Alors, qu'est-ce que j'ai pas aimé ? Faudrait peut-être plutôt demander qu'est-ce que j'ai aimé. Non, j'ai pas aimé. Alors déjà, j'ai pris pas mal de poids, je sais pas, j'étais pas grosse, j'étais pas grasse, j'ai pas mangé à outrance, mais j'ai tendance à avoir un ventre hyper volumineux. Donc pour moi, c'était hyper handicapant de me déplacer, de marcher. Et je déteste ça, en fait, de plus être dans mon corps à moi. J'avais des douleurs. Partout, j'avais mal tout le temps, enfin j'avais des problèmes genre constipation, donc je crois que tout ce qui était possible, je l'ai eu, les jambes lourdes, la rétention d'eau, je sais plus comment ça s'appelait, mais j'avais un truc à la symphyse pubienne, ça fait que du coup je pouvais plus me lever, enfin me remettre de la position allongée à assise sans souffrir le martyre, ou me retourner dans le lit la nuit, sachant que j'allais aux toilettes à peu près 10 fois par nuit, donc c'était une souffrance extrême. Et puis je prenais pas de plaisir, en fait, ça me plaisait pas d'être dans cet état-là, ça me plaisait pas de le sentir bouger, je sais pas, tout le monde dit que c'est incroyable, et je conçois que ça peut l'être, mais ça l'était pas pour moi.
Et est-ce que tu t'es tout de suite sentie à l'aise dans ton rôle de maman ?
Oui, par contre, là, j'étais prête depuis ma naissance. C'était ancré en moi et pas une seule seconde j'ai douté, que ce soit du premier jour quand j'ai su que j'étais enceinte jusqu'à maintenant. Pas une seule fois je me suis dit que je n'étais pas faite pour ça, ou que c'était une erreur, ou que c'était trop difficile, même si parfois c'est difficile. Je me suis toujours sentie à l'aise dans ce rôle-là.
Et tu racontais il y a peu sur tes réseaux que vous étiez séparés du coup avec
Baba. Du coup, comme je disais tout à l'heure, Nicolas était... En fait, Nicolas, il voulait déjà pas habiter avec moi à cette période-là. Donc lui dire, bah écoute, tu vas être papa, c'était horrible. Enfin, je lui ai annoncé la pire des nouvelles, en fait, quand on a appris que j'étais enceinte. Et effectivement, j'avais pas réfléchi une seule seconde. Est-ce que j'allais passer le restant de ma vie avec lui? Et je voulais que ce soit le père de mes enfants. Enfin, donc... Mais c'était tellement une évidence pour moi qu'en fait, je lui ai pas trop donné le choix. J'ai dit, bah... Pour une fois, je vais faire un choix égoïste et je vais décider de garder cet enfant parce que si j'avorte, j'en souffrirai toute ma vie et ma vie sera terminée. En gros, je pouvais pas, c'était inconcevable. Et du coup, je lui ai dit, bah, par contre, tu fais ce que tu veux. Moi, je fais ce choix-là qui est égoïste, donc toi, t'as le droit de faire le choix de partir, t'as le droit de rester, t'as le droit de mettre 10 ans à revenir. Tu fais comme toi, tu peux, parce que moi, je fais comme je peux, moi. Je me sentais capable de l'assumer toute seule, mais bien sûr, je préférais qu'il soit là. Donc, Nicolas parle pas du tout. Donc, on n'avait pas trop de conversation, il me parlait pas de ses sentiments, il me disait pas. Je voyais bien que c'était pas la folie et que je lui avais pas annoncé la plus belle chose de sa vie, mais il me disait pas ce qu'il ressentait. Et donc j'essayais quand même de temps en temps, mais qu'est-ce que tu comptes faire, moi, avoir une idée de ce qui allait se passer. Et il était assez vague, il me disait qu'il se sentait pas prêt, que c'était pas le bon moment, qu'il était trop jeune, qu'il avait pas envie d'être père parce qu'il avait eu une enfance compliquée, voilà, que c'était égoïste de notre part d'avoir un enfant parce que la vie elle est difficile, enfin, ce genre de choses. Je lui disais, bah oui, j'entends, mais voilà, c'est comme ça, quoi. Et du coup, il est resté avec moi au début. Puis moi, je suis partie en vacances au Baléares pendant presque un mois. C'était un peu tendu entre nous, mais on continuait de se donner des nouvelles. Et quand je suis rentrée de vacances, ça a été le choc parce que ça y est, ça se voyait. J'étais vraiment enceinte et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Et j'ai senti que pour lui c'était vraiment compliqué, c'était plus comme avant entre nous, quoi. Il y avait une distance et un jour il a craqué, il m'a dit je peux pas, je suis désolée, je peux pas. Et je lui ai dit mais je comprends, en fait moi j'ai fait mon choix toute seule et j'accepte qu'aujourd'hui tu me dises que tu peux pas parce que j'ai pas le choix que d'accepter, enfin, comme toi t'as été obligée d'accepter mon choix, moi. Donc on s'est séparés, mais on s'est séparés en s'aimant et on se l'est dit, quoi. On s'est dit, bah, lui m'a dit mais je t'aime, mais là c'est trop dur pour moi. Je lui ai dit bah voilà, moi aussi, on verra, advienne que pourra. Donc la grossesse a pas été facile parce que moi j'ai pillé un peu sa vie et j'ai, voilà, j'avais envie de savoir comment il vivait les choses. Est-ce que finalement il était heureux de m'avoir quitté et de savoir que moi j'étais dans cet état là ou alors est-ce qu'il souffrait. Donc j'ai vu et j'ai su que c'était très compliqué pour lui. Mais quand même, il continuait de faire la fête et de voir ses amis. Et puis moi, j'étais là avec cette grossesse que je détestais et toutes mes souffrances. Et j'étais un peu jalouse alors qu'en fait, je savais qu'il souffrait. Donc ça a été une période facile. Pendant quelques semaines, je dirais qu'on ne s'est plus trop donné de nouvelles. Et puis un jour, je lui ai demandé, est-ce que tu veux savoir le sexe de l'enfant? Est-ce que tu veux savoir comment j'ai décidé de l'appeler, ce genre de choses? Et il m'a dit oui, parle-moi de tout ça. Donc j'ai partagé, on se contactait de temps en temps, mais c'était assez bref. Et à la fin de ma grossesse, c'est lui qui est venu vers moi et qui m'a dit bah, je voudrais qu'on se revoie. Donc on s'est retrouvés un jour, il avait acheté un doudou, donc je me suis dit bon, bah, c'est un premier pas, peut-être que finalement il va accepter, on verra. Je pense que c'était trop flou pour lui, il savait pas à quoi s'attendre, il savait pas ce que ça allait... Bah, qu'est-ce qui allait se passer, quoi. Donc on s'est vu et il m'a posé des questions et tout. Et moi, en fait, quand je suis tombée enceinte de Kezia, quand j'ai accouché de Kezia, c'était la période où il y avait la grippe A et on n'avait pas droit de visite à l'hôpital. Et je le savais en fait que j'allais pas avoir droit aux visites à l'hôpital. Donc je lui ai dit écoute, par contre, bah voilà, j'étais jeune, c'était ma première grossesse, je savais pas à quoi m'attendre. Est-ce que ça t'ennuie de venir avec moi à la maternité dans les premiers jours, parce que sinon je vais être solo, quoi. J'aurais pas d'amis, pas de famille, pas de... Seuls les pères étaient autorisés. Donc je lui ai dit, bah, est-ce que toi tu te sens capable de venir à la mat
À l'accouchement aussi
ou... Non, pas à l'accouchement. Je lui ai infligé pas ça. Il était pas prêt, donc pas à ce stade, mais au moins être là dans les jours d'après à la mat. Et il m'a dit, ok, d'accord, j'ai accouché le soir de Noël. Enfin, dans la nuit de Noël du 24 au 25.
Et t'étais toute seule?
Enfin non, je suis allée dans la nuit du 24 au 25 à la maternité, j'ai accouché le 25, dans l'après-midi, avec ma maman. Mais ça, j'avais prévu depuis le début que j'irais avec ma mère. Et donc, je l'ai prévenue une fois que c'était fait, que j'étais... Parce que j'ai eu une césarienne, donc je suis remontée dans ma chambre bien 3 heures après, je dirais. Et je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, bah, tu peux venir quand tu... Et il est venu. Et ma mère avait briefé, enfin, ça me fait trop rire, parce que ma mère avait briefé les... ma mère n'a pas pu venir dans la chambre les jours après, mais elle a eu le droit de faire le bain de Kezia quand il est né. Et du coup, elle avait briefé les sages-femmes en disant que c'était un peu tendu, compliqué, qu'il fallait l'impliquer au maximum. Et moi, en plus, j'ai eu une césarienne, donc forcément, il n'a pas eu le choix que de s'impliquer, puisque moi, je ne pouvais pas aller lui donner le bain, je pouvais pas... Donc c'est lui qui a donné le premier biberon, c'est lui qui a fait le premier change, et c'est lui qui... Et je crois qu'à la première seconde où il l'a vu, enfin, c'est pas possible de pas craquer. Donc, j'étais sûre qu'il ferait partie de sa vie. Mais je savais pas ce qu'il en était pour la mienne, quoi. Enfin, pour la nôtre, en tout cas, pour notre vie de famille. Et puis, ça a été long, mais... mais on s'est retrouvés. Ouais. Ça a été compliqué, mais je lui ai laissé le temps et le choix de faire les choses comme il avait envie. Et voilà.
Et combien de temps vous êtes retrouvés?
Je sais pas. Franchement, j'ai pas calculé. C'est vrai que quand j'y réfléchis, je me rends pas trop compte. Je dirais que... En fait, à partir du moment où j'ai accouché, il est venu plein de fois à la maison. Donc au début, c'était normal, il venait juste pour Kezia. Puis après, ça a commencé à redevenir ambigu. Et puis moi, quand ça a commencé à devenir ambigu, bah, je lui ai dit, bah, ok, bah, alors qu'est-ce qu'on fait? Enfin, est-ce qu'on est un couple? Est-ce qu'on est une famille? Ou est-ce que... Et il était toujours pas prêt. Donc il me disait, non, je sais pas. Je voyais bien qu'il avait encore peur et que... C'était trop tôt, sauf que moi ça m'agaçait et que j'avais pas envie de rester dans le flou ou attendre toute ma vie. J'avais du mal à accepter mon nouveau corps et du coup je me disais, bah, si je reste toute ma vie toute seule ou lui il est là, mais enfin c'est pas cette vie là que je veux. Donc je lui ai laissé prendre sa place, mais en même temps moi j'avais envie au moins de statuer sur ce qui se passait, sur notre famille, quoi. Et un jour je lui ai plus ou moins mis un ultimatum en lui disant, bah, ok, donc si tu veux pas qu'on soit une famille, alors j'ai le droit d'aller voir ailleurs. Et il m'a dit oui. Je lui ai dit ok, d'accord. Et je suis allée voir ailleurs. Et il est revenu. En fait, il avait pas vraiment envie d'aller voir ailleurs, mais ça lui faisait moins peur de me dire oui. Plus que ça le terrorisait, en fait, de me dire oui, je veux qu'on soit une famille. C'était trop compliqué pour lui de me dire ça, donc il a préféré... l'autre réponse, alors qu'en fait c'était pas ce qu'il voulait, quoi.
Et alors vous remettez ensemble du coup et quelques temps plus tard vous faites un deuxième bébé.
Ouais.
Donc nouvelle grossesse.
Ouais.
Comment elle s'est passée cette fois-ci?
Moi j'ai toujours pas aimé, mais j'étais préparée. Je savais que j'allais pas aimer, donc j'avais très envie d'avoir ce deuxième enfant, parce que moi je suis fille unique et je voulais pas d'avoir un enfant unique, avoir d'enfant unique. Et du coup, il était voulu, c'était... Enfin, je dis pas que Kezia était pas voulu, mais voilà, c'était pas le même contexte, quoi. On s'était retrouvés, tout allait très bien, et j'en avais envie, donc pas une seule seconde, je me suis dit, au secours, ça va être horrible, même si ça l'est. Mais ouais, on va dire que j'ai peut-être souffert un peu moins, parce que toutes les souffrances que j'avais eues pour le premier, là je suis allée voir une sage-femme alors que je l'avais pas fait pour Kezia. Et voilà, elle m'a donné des petites astuces. Je suis allée voir un ostéopathe pour pas souffrir de ce que j'avais souffert pour Kezia, donc ça c'était pas mal. Mais j'étais encore. J'aimais pas ce corps.
T'avais pas l'état d'être enceinte.
Et puis j'avais pas eu de nausée pour Kezia, pour Soel, j'étais un peu patraque au début. J'étais essoufflée, et puis Kezia était en âge où il avait envie de courir partout, et moi j'étais là à me traîner derrière, c'était un enfer. Je disais oui. L'été il a fait 40 degrés, je passais mon temps dans la piscine, la toute petite piscine, à essayer de me refroidir tellement j'avais chaud et j'en pouvais plus. Mais pas le choix de passer par là pour vivre le meilleur après, donc on le fait.
Et alors, qu'est-ce que tu faisais comme métier à ce moment-là ?
J'étais auxiliaire de vie scolaire. Je m'occupais d'enfants en situation de handicap qui sont intégrés dans des écoles normales, en classe normale. Et voilà, mon quotidien, c'était les enfants déjà,
ouais.
À ce stade. J'étais soit en maternelle, soit en primaire.
Et t'as fait ça combien de temps ?
J'ai commencé... Je pense que j'ai commencé avant ma grossesse de Kezia. Donc ça devait faire 4 ans. 4 ans que je faisais ça, et j'ai fait presque 6 ans avant qu'on déménage en Bretagne, en fait. J'étais à VS. Et quand on a déménagé, j'ai pas repris parce que c'est hyper mal payé, en fait.
D'accord.
C'est hyper intéressant comme métier, mais c'est payé... Enfin, c'est même pas un SMIC, quoi, donc...
Ah oui.
C'est très compliqué de vivre avec deux enfants, mais un salaire et comme celui-ci.
Et donc, t'as changé complètement de carrière à ce moment-là ?
Vous avez pas quand Soel est né, quand on a déménagé en Bretagne.
Ouais.
Alors, moi, je voulais passer le concours pour être auxiliaire de puériculture. Et du coup, j'ai loupé les inscriptions. Je me suis dit que c'était un signe. Enfin, j'avais tout rempli, mais j'ai loupé la date pour les envoyer. Donc, je me suis dit que c'était un signe. Et donc, on avait nos amis qu'on avait retrouvés en Bretagne, Elodie et Karl, et qui travaillaient dans la restauration et qui avaient besoin de quelqu'un pour garder leurs enfants. Donc, j'ai décidé de commencer par là, en fait, de garder des enfants pour voir si je... Parce que, à la base, je pensais pas du tout être faite pour la vie de maman au foyer. C'est-à-dire que moi, pas une seule seconde, je m'imaginais... rester à la maison avec mes enfants, ou même des enfants, d'autres enfants, chez moi, en fait. J'avais trop besoin d'interagir avec des collègues, sortir de chez moi, sortir de ce... Et donc, je me suis dit, non, mais jamais je serai mère au foyer. Puis, en fait, quand on est arrivé, j'étais au chômage, j'étais mère au foyer avec Soel qui était à la maison, Kezia qui allait à l'école. Et en fait, c'était bien. On courait plus partout, je pouvais gérer les choses à mon rythme. Et j'ai trouvé ça incroyable, surtout que Nicolas, dans la restauration, c'est un métier où le rythme est fou. Donc, du coup, j'ai apprécié. Donc, je me suis dit que j'allais demander l'agrément d'assistante maternelle pour travailler à la maison, en fait, pour que ce soit plus simple par rapport au boulot de Nico, qui était dans la restauration à l'époque.
Ok. Et quelle formation il faut faire, du coup,
Pour être assistante maternelle, il faut... Alors, je crois qu'il y a quelques trucs qui ont changé depuis. En fait, il n'y a pas de formation. Enfin, il faut demander à la ville, au conseil régional. Il y a une réunion d'information qui permet d'avoir accès à un dossier pour demander l'agrément. Et une fois qu'on a rempli le dossier d'agrément, il nous envoie une puéricultrice ou quelqu'un de la PMI, par exemple, pour poser des questions, voir quel est le projet, est-ce que le projet est envisageable ou pas, est-ce qu'il pense que c'est possible qu'on soit assistante maternelle ou pas. Et suite à ça, il y a deux sessions de formation. Une session tout de suite avant de travailler, et une session 2 ans après.
D'accord.
Une soixantaine d'heures à peu près de formation pour être assistante maternelle. Mais ça, la formation, on l'a fait que si l'agrément était accepté.
Ok. Et l'agrément, comment on fait pour qu'il soit accepté ?
Et ben c'est ça, justement. Il y a quelqu'un de la PMI qui vient. On a une sorte d'entretien pour voir si le projet semble... si la personne semble faite pour faire ça. Est-ce que ce qu'elle attend, c'est possible dans son logement ? Est-ce que c'est adapté ? plus ou moins, enfin, à ce que son projet est réalisable, quoi.
D'accord. On a parlé dans un précédent épisode du syndrome du bébé secoué. Est-ce qu'on t'en a parlé pendant ta formation ? Pas du tout. Ça va, comment gérer
bah, moi, je connaissais déjà, en fait. À la base, j'ai une licence en psycho et puis j'ai toujours travaillé avec les enfants. C'est un domaine qui m'a toujours intéressée. Donc, avant même d'avoir des enfants, c'est des choses dont on parlait déjà. Mm. Est-ce qu'on... J'ai un peu la mémoire de Dory, donc là tu me demandes un truc. Oui, sûrement. Franchement, je pense que c'est quelque chose qu'on a abordé parce que c'est un souci. Enfin, c'est quelque chose qui arrive, donc. Oui, on a parlé de toutes les formes de violence, donc je pense que celle-ci est arrivée à un moment donné au cours de la formation.
Tu penses que la formation elle est assez longue pour. Bah, quelqu'un de novice vraiment qui.
Je pense qu'elle est correcte. Et par contre, je pense qu'elle devrait être. C'est une formation qui devrait être disponible pour. Enfin, je me suis rendu compte en tout cas que c'est quelque chose qui devrait être disponible pour tous les parents. Enfin, pour tous les gens qui sont en contact avec des enfants, donc certains parents. Parce que moi, c'est comme je te disais, j'ai la formation et mes goûts aussi ont fait que c'était des choses. Que je connaissais déjà, je m'étais déjà vachement renseignée avec Kezia et Soël, j'avais lu beaucoup de livres, tout ça, donc c'était pour moi les trois quarts des choses que j'ai appris en formation, il n'y avait rien de nouveau, quoi. C'était de la redite et c'était cool de le redire. Mais il y a des filles qui ont découvert des trucs et j'étais choquée, quoi. Je me disais, ah ouais, elles savent pas ça, je pensais pas en fait que c'était possible de pas savoir ça. Moi, c'était tellement. Ça venait tellement de loin, mon envie d'être mère, que j'étais déjà au clair sur tous les sujets, quoi. J'avais pas de... Sûrement qu'il y a des choses que je savais pas, mais on va dire que j'ai toujours voulu... je me suis toujours renseignée, j'ai toujours lu des choses sur la petite enfance, donc il y avait rien de nouveau. Et j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de femmes pour qui c'était pas le cas et qui découvraient plein de choses, quoi. Et je me suis dit, bah déjà, heureusement que ça existe, parce que heureusement qu'on laisse pas des gens comme ça qui savent rien être assistant maternel. Et c'était des personnes qui étaient déjà parents, en fait, et qui savaient pas tout ça. Et je me suis dit, mais on devrait peut-être faire des formations, ou en tout cas les proposer, peut-être pas qu'elles soient obligatoires, parce que c'est pas un métier d'être parent, mais pas loin. Mais du coup, ça devrait être quelque chose qui devrait être proposé plutôt que de nous apprendre à accoucher avec des cours de préparation à l'accouchement. On devrait plutôt nous préparer à être parents.
Et alors, comment tu dialogues, toi, avec les parents ? Est-ce que tu as instauré une façon de fonctionner avec eux ? J'avais lu, par exemple, que pour le port en écharpe,
ouais.
Je préférais demander l'avis aux parents. Ouais.
Bah après, oui, forcément, il y a des... on va dire que moi, par exemple, qui suis dans une démarche de bienveillance, bah, y a des parents qui sont pas dans la même démarche. En fait, il y a tout un tas d'éducations différentes. Et du coup, ça matche pas toujours avec tous les parents, parce qu'on n'est pas toujours du même avis. Du coup, quand on est assistante maternelle, en formation, on nous apprend à faire un projet. C'est un peu comme à l'école, elles ont des projets pédagogiques. Bah nous, on a des projets, donc c'est en gros notre façon de pas d'éduquer, parce que c'est pas vraiment de l'éducation, mais si, en partie, enfin, notre façon de travailler, en fait, comment on voit les choses, est-ce que, par exemple, on pratique la motricité libre, ou alors est-ce qu'on est plutôt... avec un enfant qui va être dans un parc, est-ce qu'on va plutôt faire des sorties à la rame, ou alors est-ce qu'on préfère rester chez soi parce qu'on n'a pas trop envie d'aller avec les autres, est-ce qu'on fait du port en écharpe, est-ce qu'on accepte les couches lavables, enfin voilà, tout ce genre de choses, est-ce qu'on peut donner à manger, je sais plus comment ça s'appelle, là, la diversification menée par l'enfant. Voilà, ce genre de choses, donc forcément c'est quelque chose qu'on parle Dès le début, oui, en entretien, on dit notre façon de voir. Et puis, on voit bien aussi comment les parents fonctionnent. Hein. Un parent, moi, qui me dit, bah moi, si mon fils, il fait une bêtise, vous le mettez au coin. Bah non, je suis désolée, mais moi, je ne mets pas d'enfant au coin parce que ça n'a pas de sens pour moi. Et de toute façon, on sent bien quand ça ne matche pas et que la personne est trop... Après, il y a des parents qui veulent des choses un peu, je sais pas moi, que l'assistante maternelle ait à tout prix un jardin ou que ce qu'il n'y ait pas d'étage à monter qu'il n'y ait pas trop d'enfants ou au contraire qu'il y en ait beaucoup. Donc forcément, on parle de tout un tas de choses dès le premier entretien pour être sûr de pouvoir travailler ensemble.
Toi, t'as le droit de garder combien d'enfants ?
Trois. Enfin, en fait, c'est trois agréments. Ça veut dire que j'ai le droit à trois enfants maximum par jour, sauf les miens. Mais ça veut dire que je peux en avoir autant que je veux, tant que ça dépasse pas trois par jour. Donc là, actuellement, j'en ai sept, je crois, différents. Mais sauf qu'ils viennent pas ensemble tous les jours.
À quoi ça ressemble alors la journée type de Lola, assistante maternelle à domicile ?
Alors, à quoi ça ressemble ? En fait, quand on est assistante maternelle, les journées, elles se ressemblent, mais pas tant que ça. Et c'est surtout d'une période à une autre, ça change complètement, comme les enfants, en fait. Ça va rien... C'est-à-dire que là, avant que je reprenne en septembre, j'avais trois grands qui avaient quasiment presque... Enfin, ils avaient entre 2 et 3 ans. Donc ça n'avait rien à voir avec actuellement où j'ai deux bébés de 6 mois à peu près et un grand qui a 16 mois. C'est incomparable. Donc une journée est très différente si on a des bébés ou des grands. Si y en a un ou s'il y en a trois, c'est pas pareil. Mais ça ressemble à les parents les déposent. Dans la matinée, à peu près aux mêmes horaires, j'ai cette chance-là. Souvent, les tout petits font une sieste quasiment quand ils arrivent. Quand le plus grand est là, je joue avec le plus grand ou je propose une activité. Soit il est libre, soit on fait quelque chose encadré s'il est tenté ou pas. Ensuite, les petits se lèvent. Le grand, lui, fait une sieste juste avant de manger. Je vais changer les petits s'il y a besoin de les changer. Après, je vais commencer à préparer les biberons, les repas pour tout le monde. Après, c'est l'heure du repas. Donc, on enchaîne un biberon à un, après le petit pot, après le biberon à la deuxième. Puis un petit pot aussi. Puis après, souvent ça finit avec le grand, puisque lui il dort plus tard et que les petits commencent du coup à être fatigués. Et enfin, c'est un quotidien. Comme avec des enfants normaux, j'ai envie de dire, chez soi, enfin, comme quand on est parent, il n'y a rien de. C'est juste que c'est plus encadré et qu'on fait pas, je sais pas, si j'ai envie d'aller faire une course ou de passer un coup de fil à ma banque, et je le fais pas parce que je travaille en fait, mais ça ressemble à du quotidien avec les enfants. Les enfants dorment, ils jouent, ils mangent, et on se balade.
T'as pas une minute à toi?
Non. Si, quand ils dorment quand même.
Ouais. Et justement, toi t'es maman de deux garçons, et assistante maternelle le jour, comment tu fais pour... nous, on veut plutôt s'échapper quand on est parent. Comment tu fais pour gérer 24h sur 24 des enfants?
Je sais pas. C'est une habitude. Je me pose pas la question. En fait, c'est comme ça et pas autrement. Après, j'ai fait une formation l'année dernière. C'était prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Donc c'était dans le cadre en tant qu'assistante maternelle, on a le droit de faire des formations tous les ans. Et du coup, j'ai fait ça. Et c'était hyper intéressant, surtout qu'en formation, j'étais qu'avec des filles qui avaient un certain âge, donc plus d'enfants en bas âge. Et on voyait bien qu'elles n'avaient pas le même quotidien que moi, parce que je suis toujours en train de courir partout, j'emmène les enfants à l'école, puis après je gère le boulot, puis après je vais chercher les miens à l'école, je gère les devoirs, le repas, et etc. Et il n'y a que genre à 20h30, 21h que ma vraie journée à moi, elle commence. Mmh. Et c'était marrant de voir que, bah, qu'elles n'avaient pas du tout cette vie-là et qu'on ne vivait pas le métier de la même manière. Actuellement, c'est pas quelque chose qui me pose problème. En fait, ça me dérange pas d'être toujours avec des enfants. Tant que le soir, à partir de 20h30 jusqu'à ce que j'aille au lit, on me demande rien, quoi. Je fais ce que je veux, comme j'ai envie. C'est là que ma journée à moi, elle commence vraiment. Et c'est pour ça que je me couche très tard, parce que moi, j'ai besoin de ce moment-là pour souffler, où personne ne va me dire « Mais maman, j'ai besoin de ceci » ou « Faut changer une couche » ou « Faut aller acheter cela ». En plus, Nicolas, il n'a pas le permis, donc s'il y a besoin d'aller faire quelque chose en voiture, aller faire une course, aller ramener un truc, et ben c'est toujours moi qui le coltine. Donc là, personne ne me demande rien, je fais ce que je veux. Et il n'y a que ça qui me permet de toute la journée... vivre à 100 à l'heure avec tous les enfants dans mon entourage. Mais des fois, j'aimerais bien pouvoir dire, bah là, ma journée, elle est finie, le dernier parent a récupéré l'enfant, allez, salut, je m'en vais, hein. Mais je le fais très rarement, parce que j'aime bien aussi être avec les miens, et que voilà. Et Nicolas est top quand il travaille. Enfin, là, il a pas travaillé pendant une certaine période, et il a pris le relais à fond. Enfin, franchement, je peux pas me plaindre, j'ai mis les pieds sous la table tous les soirs, c'est lui qui cuisine, il va sans problème aller coucher les garçons sans que j'ai quoi que ce soit à faire. Je peux pas me plaindre de ça, franchement, il gère à fond. Donc si j'avais un mec un peu plus macho, en mode j'en fous pas une, et ouais, je pense que je vivrais différemment. Mais franchement, c'est pas fou ce que je fais.
Et tu disais justement aussi que ce métier était assez mal vu, parce qu'on pense justement que tu fais rien, parce que tu restes chez toi.
Alors, c'est vraiment incroyable, parce qu'il y a les parents qui disent « Ah non, mais alors ce que vous faites, c'est vraiment incroyable, hein. Moi, je pourrais pas faire une seule seconde de ce que... » Voilà, donc ils sont hyper reconnaissants et qui comprennent que voilà, que c'est un métier de folie. Enfin, je pense que tous les métiers ont leur sont difficiles à leur niveau. C'est-à-dire que oui, on peut pas comparer une assistante maternelle et un pompier ou un policier, ou voilà, ou des personnes qui mettent leur vie en danger ou qui font vraiment des choses difficiles physiquement. Nous, c'est pas, enfin, quoique quand même, des fois on s'épargne pas niveau physique, mais oui, ça paraît pas. Alors, il y a des gens qui comprennent, parce que voilà, ils savent ce que c'est d'avoir un enfant. Et puis après, bah, y a les autres. Mais moi, je fais pas attention à ça, parce que je veux pas qu'on m'applaudisse. Je cherche pas la gloire. J'adore faire ça, en fait. C'est facile pour moi. Si on me proposait de faire autre chose, ce serait bien plus difficile que ce que je fais. Donc, c'est pas un métier difficile en soi. C'est juste que je peux pas tolérer que quelqu'un me dise, bah, c'est facile, tu fais rien. Oui, bah, tu peux essayer de le faire, et puis on verra si c'est aussi facile que ce que tu le dis. Mais de toute façon, des gens aigris qui critiquent les métiers un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir, ou enfin, voilà, ça arrive, ça arrivera. Et enfin, j'étais caissière avant ça, donc je sais ce que c'est d'entendre: ah bah, tu vois, c'est pour ça qu'il faut travailler à l'école, comme ça tu finiras pas comme elle. D'accord, bah écoute, si ta fille finit caissière pour payer ses études, tu pourras déjà être estimée heureuse, mais bon, c'est toi qui vois, quoi. Voilà, on va dire que... Et franchement, les trois quarts des parents que j'ai eus, c'était des amours à ce niveau-là. Mais pour certaines personnes, c'est encore pas un métier, quoi. C'est un hobby. C'est comme, en fait, la babysitter, bah, elle grandit, elle vieillit, puis elle a encore envie d'être babysitter, donc elle continue de faire ça pour s'amuser puis gagner un petit billet. Mais non, quoi, enfin, c'est pas comme ça.
Et alors, est-ce que ton métier d'assistante maternelle te enrichit ta vie de maman et vice versa? Est-ce que t'apprends des choses de part et d'autre que tu appliques d'un côté ou de l'autre?
Bah c'est plutôt ma vie de maman qui a facilité mon entrée dans ce métier-là, je dirais, parce que c'est quand So elle est née que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'éducation bienveillante, à lire des livres un peu là-dessus, sur la motricité libre ou Montessori, ce genre de choses. Chose que j'avais pas faite pour Kezia. Donc c'est à partir de ce moment-là que vraiment ça a fait partie de ma vie. Et du coup, ça m'a aidée, j'en sais rien, mais ça m'a... Je peux comment expliquer. Ça m'a permis en tout cas de faire les choses... telles que j'avais envie de les faire en tant qu'assistante maternelle. Est-ce que le fait d'être assistante maternelle, ça apporte dans ma vie peut-être que ça habitue les garçons aussi à ce que je sois pas complètement disponible.
Comment ça se passe pour toi quand tu dois te séparer d'un enfant qui rentre en maternelle?
C'est pas arrivé souvent. En fait, avant qu'on emménage dans la maison, j'avais le droit qu'à j'avais un agrément pour deux, dont un qui devait avoir plus de 2 ans. Donc en fait, tous les enfants qui venaient à la maison arrivaient à 2 ans, partaient à 3 ans. Donc j'étais triste, mais 9 mois, c'est pas assez pour s'attacher vraiment. Donc la première personne qui est partie de la maison et que j'avais gardé depuis qu'il avait 2 mois, c'était Marius, et il est parti à la rentrée. Et en plus, on est devenus amis avec les parents, donc là c'était encore un stade au-dessus. On s'est pas vraiment séparés parce que maintenant il vient encore en périscolaire et que voilà, mais c'est vraiment personne n'était prêt dans la famille, autant moi que les enfants que Nico. On se disait, mais c'est pas possible quoi, il faisait partie de notre vie et depuis qu'il avait 2 mois, ça faisait 3 ans qu'il était à la maison. Et voilà, on a demandé la garde alternée à ses parents, mais ils n'étaient pas d'accord. Je comprends.
Et qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité?
Tout. Ça a changé ma vie. J'étais quelqu'un de très très pessimiste. Je broyais tout le temps du noir. J'ai eu une enfance... pas idéal, on va dire, et je disais tout le temps à ma mère, la vie c'est nul, ça a pas de sens. Et puis le jour où j'ai eu des enfants, j'ai changé d'avis. Je me suis dit que la vie c'était incroyable, que être maman c'était le plus beau cadeau que la vie m'ait fait, et que voilà, et ça a tout changé. Enfin, ça m'a changé moi. Je suis devenue une autre personne et j'avais un but dans la vie. J'avais plus toutes ces pensées horribles et j'avais envie de me battre tous les jours pour leur donner le meilleur. Et ça m'a fait réaliser qu'en fait, on est heureux que si on décide de l'être. Et qu'il faut arrêter d'attendre que le bonheur comme ça tombe du jour au lendemain. Enfin, c'est ça qui m'a permis de m'en rendre compte, mais au final j'aurais très bien pu être heureuse avant même que d'être maman. C'est juste que c'était, je pense que c'était un but que je m'étais fixé il y a des années, et que du coup ça m'a permis de comprendre que j'étais la seule personne à décider si je pouvais être heureuse ou pas, et que rien d'autre pourrait le faire, enfin personne pourrait le faire à ma place, et que le bonheur allait pas se pointer en mode « Hey, salut, au fait, je suis là », et que c'était à moi de décider. Donc, ça a tout changé.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Ouais.
C'est quoi pour toi être une maman bretonne?
C'est sortir de l'école et aller manger une glace sur la plage. Voilà, c'est être en vacances toute l'année. C'est faire croire aux gens qu'il fait pas beau chez nous et qu'en fait, il fait toujours du soleil. Sauf depuis ces 2 derniers mois où là, pour le coup, on n'a que du mauvais temps. Mais... Non, c'est chouette. Moi, je pourrais plus vivre loin de la mer.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Dinard?
La plage.
Et quels sont tes projets pour toi et ceux prévus en famille?
J'ai pas de projet particulier actuellement. On va dire que je suis relativement bien occupée entre le boulot, les enfants, le blog et Maison Margaret. Et voilà, je crois que j'ai pas mal de choses à gérer, donc c'est plus de donner un peu de temps à chaque chose que j'ai à gérer, sans oublier que je suis là et que moi aussi j'ai besoin de temps. Et le projet en famille, ben, continuer de voyager comme on le fait maintenant, tout faire pour profiter du moment présent, parce que des fois on oublie de le faire et que c'est ce qui est le plus important, parce qu'on ne pourra jamais revivre les moments qu'on a passés. Et puis voilà.
Merci beaucoup Lola.
Merci à toi.
Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.